l'actualité, la culture, l'histoire, l'économie. Découvrez la Corée sous tous les angles sur KBS World Radio.
Séoul, au jour le jour. Bonjour et ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Séoul au jour le jour. Demain, la Corée du Sud commémore le 7e anniversaire du naufrage du ferry Séoul. Il y a 7 ans, jour pour jour, cette tragédie a mis la Corée du Sud sous le choc en faisant 304 morts. Lundi dernier, le rectorat de Gyeonggi a inauguré le centre de formation des citoyens démocratiques du 16 avril en vue de rendre hommage aux victimes. Ce nouvel édifice garde la trace des 250 élèves du lycée Danwon et des 11 enseignants qui sont partis en voyage scolaire à l'île de Jeju, mais qui n'ont pas pu en revenir. Au premier et deuxième étage, 10 salles de classe de deuxième année et une salle des professeurs ont été reconstituées. Tout a été reconstitué comme à l'époque, à partir du tableau jusqu'au châssis de fenêtre, en passant par les objets personnels tels que les stylos et les coussins. Sur le bulletin devant la salle a été accrochée une affiche de concours destinée aux adolescents rêvant de devenir scientifiques. Derrière la salle, on retrouve des publications visant à encourager à réviser les lycéens qui attendaient le baccalauréat 18 mois plus tard, comme une carte des universités à Séoul. Sur un bureau de la salle des profs a été posé un guide de préparation à l'examen de l'histoire coréenne qu'un enseignant avait créé lui-même. Une mère de victime qui a visité la classe 4 s'est dite satisfaite de revoir cet endroit et a affirmé qu'elle allait y revenir quand son fils lui manquerait. Le centre prévoit d'organiser des programmes d'éducation civique en tirant la leçon de la catastrophe du ferry Sewol. 7 ans se sont écoulés depuis la tragédie. Mais les familles des victimes souffrent toujours du traumatisme. Quand le mois d'avril ou les fêtes traditionnelles ou Noël approchent, la douleur devient encore plus forte. Le centre Onmaeum à Ansan leur offre un soutien psychologique. Il abrite des salles de consultation et des coins de repos permettant de soigner leurs souffrances. L'établissement public organise également des programmes tels qu'un chœur ou une troupe de théâtre ainsi que des groupes de famille. Ces activités offrent une occasion de partager des expériences et du temps entre les familles des victimes, leur donnant la force de vivre. Le centre ne se contente pas de remplir sa mission de guérir d'un traumatisme et tente d'aller encore plus loin en mettant en point des initiatives visant à réintégrer les élèves et les frères et sœurs des victimes dans la société. Dans ce cadre, il leur offre des formations liées à l'orientation professionnelle, à l'emploi et à la fondation d'une entreprise. Parmi 780 personnes inscrites, 40 à 50% visitent l'établissement en espérant retourner à la société. Alors que l'humoriste sud-coréen Park Soo-hong a récemment porté plainte contre son grand frère soupçonné d'avoir détourné les fonds de son agence, un propos tenu par sa nièce dans le passé suscite l'ire des internautes. Selon une interview qu'elle a donnée en 2012, elle a affirmé que l'héritage de son oncle lui reviendrait en fin de compte. Cette affaire a posé une question aux célibataires. Que deviendra mon patrimoine si je meurs? Parfois, il semble juste de le reverser aux neveux qui partagent le même sang que moi. Mais quand ils ne sont pas vraiment sympathiques, on a plutôt envie de faire un don à une association caritative. Selon l'Institut National des Statistiques, le nombre des célibataires qui ont plus de 40 ans s'est élevé à 1,68 million en 2015, soit 250 fois plus que par rapport à 1966. Le chiffre devrait dépasser les 3 millions pour 2020. Si ces personnes demeurent seules toute leur vie, la gestion de leur héritage pourrait constituer un enjeu social important dans 20 à 30 ans. En vertu du code civil, l'héritage d'une personne qui n'a pas de parents, époux ni enfants est transmis à ses frères et sœurs. Si ces derniers sont déjà décédés, le patrimoine sera accordé aux enfants de ces derniers. Or, dorénavant, de plus en plus de célibataires ne souhaitent pas léguer leurs biens à leurs neveux, probablement parce que les familles se réunissent moins qu'auparavant et qu'ils n'ont pas beaucoup d'occasion de tisser des liens entre eux. C'est pourquoi certains préfèrent confier leur patrimoine aux sociétés fiduciaires, pour que celle-ci le lègue selon son testament après leur mort. La loi sud-coréenne précise qu'une partie de l'héritage doit être accordée aux membres de la famille, peu importe l'intention du défunt. Mais cette option de faire appel à une société judiciaire permet d'utiliser le bien 100% à son gré. Park, une célibataire d'une soixantaine d'années, a conclu un contrat avec une institution financière dans ce but. Étant donné qu'elle avait un conflit avec son frère et ses enfants, lors de la succession de l'héritage de ses parents, elle a décidé de léguer son argent seulement aux enfants de sa sœur. D'autres préfèrent faire une donation à une fondation humanitaire. Kim, un quadragénaire, a demandé à son conseiller d'accorder son bien à l'UNICEF. Mais dans le cas où sa mère lui survit, il lui a fait léguer toute sa fortune pour éviter que son petit frère touche son héritage parce qu'il ne s'occupe pas de sa mère, mais ne fait que convoiter son patrimoine. À l'étranger, il arrive que les animaux de compagnie héritent du bien de leur propriétaire. Mais en Corée du Sud, ils n'ont pas le droit à la succession. Or, il est toujours possible de demander d'utiliser le patrimoine pour ses chiens ou chats à travers un fiduciaire. Les hommes sud-coréens d'une trentaine d'années émergent comme de grands consommateurs de produits de luxe. L'année dernière, leur achat a connu la hausse la plus importante en glissement annuel par rapport aux autres catégories d'âge et de sexe. Les hommes célibataires ou mariés, mais qui n'ont pas d'enfants, tirent le marché du luxe vers le haut. Un sondage mené conjointement par le journal Tonga Ilbo et le cabinet Tillion Pro démontre bien que leur attitude de consommation se démarque des autres. Selon le résultat, les hommes de 30 à 39 ans font le moins attention au prix quand ils choisissent un article de luxe. Et la plus grande raison de ces achats était pour exprimer leur personnalité à travers les objets. Contrairement aux générations de leurs aînés, qui étaient habitués à se sacrifier pour la famille en tant que père, les trentenaires d'aujourd'hui n'hésitent pas à dépenser une grande somme d'argent pour leur propre plaisir. Cette tendance est notamment attribuable à l'augmentation de l'âge moyen du premier mariage. D'après l'Institut national des statistiques, en 2000, les Sud-Coréens se sont mariés à 29,3 ans en moyenne. Cependant, en 2020, le chiffre s'est accru à 33,2 ans. Alors que la plupart des hommes étaient chefs de famille après 30 ans, désormais les trentenaires sont des célibataires qui ont un pouvoir d'achat élevé. Certains repoussent même le plan de naissance de leurs enfants en vue de maintenir leur niveau de consommation. Nés entre 1982 et 1991, ces générations ont passé une enfance plutôt aisée sur fond de croissance économique. Or, elles constituent également la première génération qui sera moins riche que leurs parents. Malgré tout, comme leurs parents les ont élevés sans leur faire manquer de rien, ils trouvent normal de dépenser pour leur satisfaction personnelle. Ils ont tendance à consommer des marques de luxe pour frimer et aussi comme un moyen de dissiper le stress dans une société très concurrentielle. D'après l'enquête ci-dessus, le facteur qui influence le plus leur choix de marchandises était le design. Et près de 30% ont estimé que les produits de luxe les aideraient à exprimer leur identité. En revanche, les hommes de 40 à 69 ans choisissent les produits par rapport à la réputation de la marque. Et s'ils achètent des marques de luxe, c'était parce qu'ils se sentaient plus en confiance lorsqu'ils les portent sur eux. Face à l'intérêt grandissant de cette tranche d'âge d'hommes pour les produits de luxe, les grands magasins sont nombreux à mettre en place des coins de luxe destinés aux hommes. Les hommes dans la trentaine constituent également une principale clientèle dans le marché du luxe d'occasion. 70% d'entre eux ont déjà acheté une marchandise de luxe d'occasion. Un chiffre 20 points plus élevé que d'autres catégories d'âge et de sexe. Effectivement, ils choisissent les produits usagés en raison, par ordre décroissant, de l'avantage du prix, du recyclage des ressources et de la rareté des modèles.
Vous avez aimé, vous avez détesté, vous avez adoré. Faites-nous part de vos réactions en nous écrivant à french@kbs.co.kr.
Et oui, vous êtes bien sur KBS World Radio pour votre magazine de société, Séoul au jour le jour, en compagnie de Franck Atlani, ce jeudi 15 avril. Le makgeolli est un alcool traditionnel facile à fabriquer. Il faut seulement du riz, de l'eau et du nulluk, une levure traditionnelle. Cette boisson alcoolisée bon marché a accompagné la vie du peuple coréen depuis des lustres. Et elle était surtout appréciée par les ouvriers agricoles qui s'en imbibaient à l'heure de la collation. Aujourd'hui, certains sud-coréens la servent lorsqu'ils font des offrandes en espérant une bonne fortune avant d'inaugurer la construction d'un bâtiment ou d'ouvrir un magasin. La culture de la fabrication du makgeolli sera inscrite à la liste du patrimoine culturel immatériel de la Corée du Sud. Elle concerne non seulement la confection elle-même, mais également toutes les mœurs liées à cet alcool blanc dans la vie quotidienne et différents événements. C'est le premier héritage culturel qui rejoint la liste suite à la recommandation des citoyens. La fabrication du makgeolli est simple, comme son étymologie le montre. Dans son appellation, mak signifie à l'arrache et golli vient du verbe golleda qui veut dire filtrer. Pour en concocter, il faut d'abord faire du riz avec un peu moins d'eau que d'habitude et le laisser refroidir. On y ajoute du nouluk et de l'eau et on le laisse fermenter pendant plusieurs jours. Enfin, on n'a qu'à filtrer le liquide avec une passoire. Pendant l'occupation japonaise, les autorités nippones ont interdit de concocter de l'alcool à domicile et beaucoup de spiritueux ont disparu, mais le makgeolli a subsisté. En 1963, sous l'administration du dictateur Park Jang-hi, il fallait en créer seulement avec du blé dans le but de garder le riz pour le repas. Le makgeolli à base de riz a fait son retour seulement en 1977 et il a été autorisé d'en créer à la maison à partir de 1995. Cet alcool traditionnel, étant fabriqué avec des céréales telles que le riz et l'orge, son histoire devrait remonter au début de l'agriculture en Corée, c'est-à-dire avant l'ère des trois royaumes de Corée. Les livres historiques comme Samguk Sagi et Samguk Yusa appuient cette théorie. Selon l'administration de l'héritage culturel, étant donné que la création de ce spiritueux constitue une culture dans laquelle tous les habitants de la péninsule coréenne baignent, les individus ou les associations détenteurs ne seront pas reconnus. Ainsi, la Corée du Sud comptera 11 biens culturels immatériels, dont Alilang, le chant folklorique, la fabrication conventionnelle du thé et le shilom, la lutte traditionnelle coréenne. Qu'est-ce que les rois de la dynastie Joseon auraient-ils grignoté comme friandise ? Le palais royal Gyeongbokgung vient de lancer Sengkwabang, un programme permettant de goûter aux collations royales. Sengkwabang, appelé également Sengmulbang ou Senggotbang, désigne un endroit où ces sucreries ont été fabriquées. Il accueille les visiteurs à partir d'hier jusqu'à la fin du mois de juin. Ce projet a été initié par l'administration de l'héritage culturel et la fondation de l'héritage culturel de Corée. Les visiteurs peuvent y découvrir divers thés et casse-croûtes concoctés en suivant les documents historiques comme les annales du royaume de Joseon. Dans ce café traditionnel, Nain, les dames de cour, et Chabi, les domestiques qui se chargeaient de la cuisine de l'époque, s'occuperont des commandes. Dans le menu de la collection, 6 sortes de desserts seront au choix, y compris Jangkwa, un gâteau dieu aux fruits, Tanobak Chalpion, un gâteau de petits ronds, et Mejakwa, un gâteau de farine en forme de moineau assis sur un abricotier. Soyo Hyangbyang, un gâteau d'igname de Corée, connu pour son odeur aromatique, quant à lui, est préparé en seulement 40 exemplaires par jour. Ses friandises coûtent entre 1000 et 2500 won, soit 75 centimes d'euros et 1,90 euros par unité. Pour la boisson, 6 sortes d'infusions sont disponibles, dont le thé à la cannelle et à la clémentine, ainsi que le thé aux chrysanthèmes et à la baie de goji. Cette année, Ijung Gon Gomtang, le thé de Yangjo, le roi qui a vécu le plus longtemps, avait l'habitude de boire et nouvellement présenté. Il est composé de ginseng qui réconforte le corps, de la racine de l'atrak-tilode qui protège l'appareil digestif, ainsi que du rhizome de gingembre qui réchauffe l'estomac. Les tisanes coûtent entre 3 et 4 euros. Sengkwabang est ouvert de 10h à 17h tous les jours, sauf le mardi. Une occasion exceptionnelle pour savourer les desserts traditionnels dans l'ambiance sereine que le site historique dégage. La pandémie de Covid-19 a frappé de plein fouet le monde du spectacle vivant. Mais bientôt, il y aura une occasion de se plonger dans l'atmosphère enthousiaste du Festival d'Avignon. Le centre d'art de LG, situé à Séoul, diffusera d'anciennes prestations de l'une des plus grandes manifestations de théâtre au monde pour la première fois dans le pays du matin clair. Ce festival français accueille 500 000 visiteurs chaque année et permet de découvrir des spectacles expérimentaux et créatifs. À compter du 28 avril jusqu'au 2 mai, 5 œuvres seront projetées 2 fois respectivement. Parmi elles, 4 se sont déroulées dans la cour d'honneur du Palais des Papes, lieu incontournable du festival. La première sera Hamlet, mise en scène par l'Allemand Thomas Ostheimer. Les spectateurs pourront voir Hamlet qui prononce, avec une caméra à la main, sa fameuse réplique « Être ou ne pas être, telle est la question ». 6 comédiens interprètent une 20aine de personnages. Thieste, du metteur en scène français Thomas Joly décrit le conflit entre des frères pour obtenir le trône et une vengeance cruelle. Il offre des scènes impressionnantes avec des grosses statues en pierre et diverses musiques. Joly interprète le héros Atrée et donne des frissons aux spectateurs. Parmi le programme, on retrouve également Le Roi Lear d'Olivier Py. Celui-ci a transformé l'œuvre d'origine avec des répliques plus modernes. Césena, quant à lui, est un ballet de danse contemporain de la chorégraphe belge Anna Teresa de Kiersmaeker. Sans aucun instrument de musique, ni décoration ou éclairage, seuls 19 danseurs et chanteurs dirigent le spectacle. Cette œuvre a été donnée à 4h30 du matin pour offrir une expérience audiovisuelle sensationnelle. Enfin, la pièce de théâtre « Ma chambre froide » de Joël Pomrat est la seule prestation qui a eu lieu à l'intérieur. Elle a incarné la psychologie humaine avec une observation minutieuse et une langue formidable.
Bonjour chers auditeurs et auditrices, très heureux de vous retrouver pour Bon Plan de Sortie, votre émission du jeudi qui vous fait découvrir les événements les plus captivants du pays du matin clair, le tout en 5 minutes chrono. Et au programme cette semaine, le trio formé d'une pianiste, d'une violoniste et d'une violoncelliste baptisée L'Amitié, qui comme son nom l'indique est 100% coréen. Un tour du monde musical au piano, une exposition de l'illustrateur et graphiste Max Dalton. Mais pour commencer, penchons-nous sur le récital d'une jeune virtuose du piano. Bon plan de sortie, c'est parti. La pianiste Son Yeol-eum donnera un récital ce dimanche 18 avril au Gangdong Art Center à Séoul. Le concert était initialement prévu au printemps 2020, mais il a dû être reporté en raison de la pandémie. Pour le concert nouvellement programmé, la jeune virtuose interprétera des œuvres des plus grands compositeurs romantiques. Le Rondo Capriccioso de Mendelssohn, le 6 pièces pour piano de Brahms, la ballade numéro 2 de Chopin et les Kreisleriana de Schumann. Née en 1986 à Wonju dans la province de Gangwon, Son Yeol-eum s'est révélée sur la scène internationale remportant la médaille d'argent au concours de piano Van Cliburn aux États-Unis en 2009, puis le deuxième prix du concours Tchaïkovski en Russie en 2011. Depuis 2018, elle est directrice artistique du festival de musique de Pyeongchang Daegwalyang, l'une des manifestations musicales les plus importantes de Corée du Sud. Une exposition de l'illustrateur et graphiste Max Dalton se tiendra du 16 avril au 11 juillet au My Art Museum dans le sud de Séoul. Intitulée Max Dalton Moments in Film, cette exposition propose notamment ses illustrations inspirées de célèbres films tels que The Grand Budapest Hotel du réalisateur Wes Anderson, 2001 l'Odyssée de l'espace de Stanley Kubrick ou encore la série Star Wars. Seront également présentées des pochettes de disques réalisées en hommage à des musiciens comme les Beatles ou Bob Dylan. Ainsi, cet événement sera l'occasion de découvrir l'univers original d'un artiste qui s'est intégré la culture populaire dans sa démarche créative. Né en 1975 et résidant à Buenos Aires en Argentine, Max Dalton réalise des affiches ou des dessins publicitaires, illustre des livres pour enfants et travaille également sur des projets artistiques personnels. Le Centre de la Culture et des Arts de Hanam dans la province de Gyeonggi propose un tour du monde musical à travers 4 concerts en matinée avec le pianiste Song Yeongbin entre avril et décembre. Le premier de cette série se tiendra le 22 avril et fera voyager le public aux États-Unis et au Mexique. Le pianiste Song Yeongbin, qui jouera également le rôle de présentateur, sera entouré de 2 flûtistes, Lee Yerin et Han Myeongju. Les 3 musiciens interpréteront des œuvres de compositeurs contemporains américains et mexicains. Au programme figurent Summertime et I Got Rhythm de George Gershwin, Three Dances for Two Flutes de Gary Shocker ou encore Fantasia Mexicana de Samuel Zayman. Les 3 autres concerts de cette série auront lieu le 17 juin, le 21 octobre et le 23 décembre et seront consacrés respectivement à des œuvres de compositeurs argentins, coréens et enfin français. Et pour terminer, le trio L'Amitié se produira en concert le 30 avril au Ilshin Hall à Séoul. Fondé en 2019, il est composé de la pianiste Kim Da-sol, de la violoniste Jang Sebom et de la violoncelliste Park Yeon-soo. Ces trois musiciennes se sont connues sur les bancs du collège et du lycée des arts Sonhwa à Séoul, avant de partir chacune de leur côté se perfectionner en Allemagne, en France et en Angleterre. Lors de ce concert intitulé Adios Tragedia, elles interpréteront le trio pour piano et cordes en mi mineur de Tchaïkovski en première partie, avant de jouer en deuxième partie des œuvres du compositeur argentin Piazzolla, telles que Oblivion, La mort de l'ange et Les quatre saisons de Buenos Aires. Cette édition de Bon Plan de Sortie est terminée. Nous vous rappelons qu'en raison de l'épidémie de coronavirus, il est recommandé de bien vérifier si les événements auxquels vous souhaitez vous rendre ont toujours lieu. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée et vous donne rendez-vous jeudi prochain.
C'est la fin de notre émission Séoul au jour du jeudi. C'était Franck Atlani au micro, Ijian à la rédaction, avec Ho Hayang à la réalisation. Merci de nous avoir suivis, je vous souhaite une très belle journée.